Ce matin, nous allons lire et essayer de comprendre un texte assez connu dans les évangiles, un texte qui se trouve dans l'évangile selon Jean, chapitre 8, des versets 31 à 59. C'est le fameux texte où Jésus parle aux pharisiens et leur dit que leur père, c'est le diable. Chapitre 8, au début, c'est aussi un texte connu. Jésus avec la femme adultère, où les pharisiens viennent dire à Jésus: cette femme a péché. Qu'est-ce que dit la loi? Normalement, on doit la lapider. Et toi, qu'en dis-tu? Donc, ça commence comme ça. Et Jésus dira: que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. On poursuit comme ça la discussion entre Jésus et les pharisiens. Et il leur dit à nouveau: je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. Je m'en vais, vous me chercherez. Mais vous mourrez dans votre péché. Là où je vais, vous ne pouvez aller. Et il continue avec des paroles un peu comme ça, assez cinglantes. Celui qui m'a envoyé est véridique, et ce que j'ai entendu auprès de lui, c'est cela que je déclare au monde. À la fin de tout ça, on a des personnes qui suivent Jésus et d'autres non. Mais Jésus ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas leur dire: c'est bon, vous avez dit que vous m'aimez, vous me suivez, c'est cool, on arrête. Non, Jésus va continuer. Et dans le passage qu'on va commencer à lire, Jésus va leur dire que leur père c'est le diable. Assez bizarre comme parole. Je vais demander à Christine et à Hélène de nous lire le texte. C'est un dialogue entre Jésus et les pharisiens. Donc, bon, c'est Jésus en femme et un pharisien en femme. C'est actualisé, vous comprendrez bien. Ça sera. Alors, je commence, parce qu'il y a quand même un narrateur au début et à la fin. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui:
si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre.
Nous sommes la descendance d'Abraham, et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libre?
En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison. Le fils y demeure pour toujours. Si donc le fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de votre père.
Notre père, c'est Abraham.
Si vous êtes des enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père.
Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu.
Si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sortie et que je viens. Je ne suis pas venue de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu.
N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as en toi un démon?
Je n'ai pas de démon. Mais j'honore mon père, et vous me déshonorez. Moi, je ne cherche pas ma gloire. Il y en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort.
Maintenant, nous savons que tu as en toi un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu?
Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites, il est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas, moi je le connais. Si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre Père, a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui.
Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham?
En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi, je suis.
Là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter. Mais Jésus se cacha et sortit du temple. Je priais. Père Céleste, nous sommes devant ta parole et nous voulons que tu nous éclaires, que ton esprit nous guide et nous aide à comprendre ce que tu as à nous dire. Père, rends-nous sensibles à toi durant ces moments. Amen. Vous avez vu au début, les Juifs suivent Jésus, ils mettent leur confiance en lui, ils mettent leur foi en lui, et à la fin, ils changent d'avis. Ils donnent l'impression de ne plus mettre leur confiance, leur foi en lui. Au cours du passage, au cours de la lecture, vous avez vu qu'une fois, les pharisiens ont traité Jésus de Samaritain. Donc, ce n'est pas une insulte en tant que telle, hein. C'est juste un peuple qui est méprisé par les pharisiens. Donc, ils l'insultent. Ensuite, ils vont dire à Jésus, « Tu as un démon en toi ?» Et à la fin, ils vont lui jeter des pierres. Mais, comme l'heure n'est pas venue pour Jésus, Jésus se cache et part du temple. Alors, on n'a pas une disparition par téléportation, ou je ne sais pas comment. Là, ils sont dans la cour du temple, la cour où tout le monde va. C'est une cour qui fait 25 mètres de long par 250. Donc c'est une cour assez conséquente, il y a plein de gens. Donc Jésus se faufile et part tranquillement. Se faufile et se cache et s'en va. Pourquoi les Juifs, les pharisiens, ont-ils changé d'avis? Qu'est-ce que Jésus a bien pu leur dire pour qu'ils changent d'avis et qu'ils jettent des pierres? Et pourquoi Jésus s'est pas arrêté à là? Et pourquoi il a pas conduit sa route? Pourquoi il était obligé de leur dire que leur père, c'était le diable? Jésus, vous comprendrez bien, sa vocation n'est pas de caresser les gens dans le sens du poil. La vocation de Jésus, c'est de rendre gloire à son Père et de faire ce que son Père veut. Son identité, c'est de rendre les personnes libres, libres de l'esclavage du péché. Mais en face de ça, nous avons le diable qui s'est choisi un rôle de rendre les personnes captives. Dans ce texte, on voit que Satan, le diable, capture des personnes. Il le fait par différents moyens et je vous en propose deux avec ce texte. Le premier, c'est que Satan leur donne l'illusion qu'ils sont libres, l'illusion de la liberté. Et le deuxième point, c'est qu'il il utilise leur orgueil, ou en tout cas, il les fortifie dans leur orgueil pour ne pas voir Dieu. Et tout le débat entre Jésus et le pharisien, c'est là. De qui ils sont descendants? Qui est leur père? Et on voit tout se cristallise à ce niveau-là. Et on voit qu'il y a une confusion entre descendance, père, descendance, fils ou pas. Les Juifs se réclament de la descendance d'Abraham. Et Jésus le confirme. En effet, vous êtes bien de la descendance d'Abraham. Mais les Juifs, les pharisiens, prétendent aussi être libres. Et là, Jésus n'est pas tout à fait d'accord. Déjà, d'un point de vue plus historique, hein, les Juifs, le peuple, étaient esclaves en Égypte. Donc, vous avez sûrement déjà vu le film Exodus, hein, qui raconte aussi un peu cette histoire. Le peuple qui était captif et qui est libéré. On a toute la Pâque qui est là pour commémorer cet événement, la sortie de l'esclavage, la sortie d'Égypte. Et c'est quelque chose d'assez important quand même, hein, si vous lisez un peu l'Ancien Testament. La Pâque, c'est quelque chose d'assez important. On a eu aussi la déportation du royaume du Nord en -722 avec Ninive. On a eu la déportation du royaume du Sud, le peuple de Juda, en 597 avec, par les Babyloniens. Là encore, aujourd'hui, je dirais, pour eux aujourd'hui, ils sont encore sous une gouvernance romaine. Ils ne sont pas en pleine autonomie. Ils ne font pas ce qu'ils veulent. Hein. C'est quand même Rome qui les dirige. Mais bon, ils prétendent encore être libres. Et il est vrai que dans l'Ancien Testament, dans le Lévitique, un texte un peu de loi quand même, il est interdit pour un juif d'être esclave. Alors, peut-être qu'il se réfère aussi à ça pour se dire, nous sommes des bons juifs, Nous sommes esclaves de personne. Mais Jésus leur dit aussi, ce n'est pas seulement de cela que je veux parler. Les Juifs sont fiers de qui ils sont, de leur origine. C'est pour ça qu'ils vont traiter Jésus de Samaritain. Les Juifs sont un peuple choisi par Dieu. Et c'est pour ça qu'ils se prétendent libres, parce qu'ils sont choisis par Dieu dans l'Ancien Testament. Mais Jésus insiste vraiment pour dire qu'ils sont esclaves du péché et qu'ils ont pour père le diable. Comment Jésus va donner son explication ? C'est ça qui est un peu bizarre, hein, l'explication que donne Jésus. D'abord, il affirme être la vérité. Bon, ça part d'un bon point, hein, mais... Il dit « Je suis la vérité et mon Père, c'est Dieu. » Et il explique, on verra tout à l'heure, comment il n'est pas menteur. Et il dit « Si mon Père, c'est Dieu, et si vous dites aussi que Dieu, c'est votre Père, alors il y a un problème. » Dans le contexte, un fils reproduit les actions de son père. Le fils fait ce que son père fait, a le même métier. Je ne sais pas si vous avez vu aussi Divergente. Quand on est dans une faction, on reste dans la même faction, on refait les mêmes choses, on reste dans un cadre. Là, quand Jésus leur dit ça, il reste aussi dans le même cadre. Le fils reproduit les actions de son père. Donc, si moi je prétends être du père, et si vous prétendez être du père, et que nous, ensemble, enfin, vous et moi, on ne refait pas les mêmes choses, c'est-à-dire que soit le père est divisé, soit c'est qu'on n'a pas le même père. Soit on a un père qui est schizophrène, qui a deux personnalités, parce qu'on a des attitudes, des pensées diamétralement opposées. Soit on a un père qui est schizophrène. Et bien entendu, les Juifs pensent à l'unité de Dieu. Donc une schizophrénie, ça peut être un peu compliqué. Les Juifs savent que Dieu est vérité, que Dieu ne ment pas, qu'il n'y a pas ombre de variation. On verra aussi ça dans le Nouveau Testament. Donc, forcément, c'est qu'il y en a deux qui mentent. Donc voilà, Jésus leur dit ça. Et Jésus leur dit, il y en a deux qui mentent, et bien sûr, c'est vous. Et il l'explique, hein, je vais venir comment il l'explique tout à l'heure. Et Jésus est d'accord pour dire qu'ils sont à la descendance d'Abraham. Mais il est contre le fait de dire qu'ils sont fils d'Abraham. Parce que Abraham n'a pas agi comme ça. Abraham n'a pas réagi de la même façon que eux à la pensée de voir Jésus un jour. Le but de Jésus, c'est de rendre les personnes conscientes de qui ils sont, de ce qu'ils ont en eux, de leurs attitudes, de leur filiation. Et comme je disais, hein, les pharisiens s'illusionnent en pensant qu'ils ont pour père Dieu. Et Jésus est là pour leur pointer du doigt. Non, vous ne faites pas ce que Dieu veut. Vous n'avez pas une attitude conforme à ce que Dieu veut. Ça, c'est le but de Satan. Le but de Satan n'est pas que nous l'adorions. Le but de Satan, pour eux, est de faire croire qu'ils sont bien, qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. C'est de nous détourner de Dieu. Un auteur disait que Satan sait nous laisser la chaîne longue et légère pendant un temps et nous fait croire que nous sommes libres. Et Jésus est là pour nous montrer que nous avons une chaîne accrochée au pied, que nous sommes emprisonnés. Mais bien sûr, Satan ne va jamais nous dire « Eh si, je t'ai en esclavage, je te tiens. » Bien sûr, il ne va pas faire comme ça. Si une personne vous dit expressément qu'elle vous ment ou qu'elle vous arnaque, au moins que ça ne va pas très bien, mais sinon, vous n'allez pas lui faire confiance, vous n'allez pas l'écouter, vous n'allez pas la suivre. La façon qu'elle va le procéder, c'est de vous arnaquer, c'est de vous raconter des bêtises, c'est de vous faire croire que c'est super, c'est un bon produit, il faut l'acheter. Enfin, je ne sais pas si vous êtes vendeur. Mais... Vous voyez, c'est un peu ça. Si Satan nous dit ça, on va directement se rebeller. On va aller voir ailleurs. Et Jésus dit que Satan, verset 44, ment dès le début. Il a menti à Adam et Ève. Et il continue de le faire, il a continué de le faire avec l'histoire du peuple d'Israël. Et dans notre société, en France, occidentale, postmoderne, très rationaliste. Le but, comment Satan peut s'y prendre, c'est nous faire croire, pareil, qu'il n'existe pas. Donc si Satan n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Parce que quelque chose un peu, je ne vais pas dire mystérieux, je veux dire comme ça, ou qui nous paraît pas rationnel, si on pense que Satan n'existe pas, du coup, Dieu forcément ne veut pas exister. Non plus, ce n'est pas rationnel, dans les deux sens. Et ça, c'est son job, nous détourner de Dieu. Et je vous encourage à lire un livre de C.S. Lewis, qui est l'auteur de Narnia, et qui est un chrétien qui a vécu au XXe siècle, donc début du XIXe, jusque, je pense, dans les années 60, ou en tout cas milieu du XXe, 1900 à 1900 et quelques. J'ai dit 19e. Donc il a vécu pendant la guerre, il a écrit beaucoup d'ouvrages aussi pendant la guerre. Donc c'est intéressant de lire aussi dans ce contexte-là, ce qu'il écrit. Et c'est son livre, j'y viens, vous avez peut-être déjà oublié ce que je veux dire. Il a écrit Tactique du diable. C'est le diable qui parle à son padawan comment détourner les chrétiens. Et c'est très... ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. On se demande comment il a toutes ces idées. Mais en tout cas, ça donne à réfléchir que Satan est là, sur la brèche, pour détourner les chrétiens de Dieu. Mais Jésus est là. Jésus est là pour nous garder, pour nous ouvrir les yeux sur notre état. Je disais que Satan utilise aussi l'orgueil. Les pharisiens sont contents, ils sont un peuple élu, ils ont un rang social, ils ne sont pas des samaritains, c'est des personnes de la haute société. Et en plus, les Romains, donc ils sont un peu affiliés aux Romains à cette époque-là, et du coup ils ont un peu un pouvoir sur le peuple. Ils n'ont pas un plein de pouvoir, mais ils ont déjà aussi quand même un pouvoir au niveau du peuple. Et oui, en effet, Dieu s'est réellement choisi ce peuple. Dieu s'est choisi un peuple pour lui obéir, pour l'adorer, pour que le peuple puisse refléter la gloire de Dieu. Mais le problème, hein, c'est que tous ne sont pas rentrés dans la terre promise. Tous ne sont pas revenus aussi de l'exil. Et là, l'objectif, enfin, comment Satan s'y prend, il leur fait croire, qu'ils ont un rang social, qu'ils sont quelqu'un de bien, qu'ils n'ont pas besoin de changer. Ils sont de la descendance d'Abraham. Parfait. Plus besoin de changer. Mais c'est pas pour ça qu'ils peuvent prétendre avoir pour père Dieu. Jésus, à l'inverse, comme je le disais, Satan capture, mais Jésus nous libère. Jésus veut nous libérer de l'emprise du péché, des stratagèmes du diable. Jésus peut paraître un peu dur, hein. Je sais pas si c'est un peu violent si quelqu'un vient vous voir, et même si vous êtes chrétien et vous dit, vous avez, bon, peut-être d'autant plus, mais vous êtes pour père le diable, c'est quand même assez violent. Ou quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas chrétien, c'est quand même assez violent comme approche pour faire changer les personnes d'attitude. Mais rassurez-vous, Jésus ne parle pas tout le temps comme ça. Des fois, il parle plus doucement, en tout cas, ça peut nous paraître moins dur. La femme adultère, au début du chapitre, il lui parle plus calmement et voilà, il s'adapte à son public. Et là, pour les pharisiens, il doit un peu plus leur rentrer dedans pour qu'ils puissent comprendre. Jésus leur affirme que s'ils demeurent dans sa parole, ils seront vraiment ses disciples. Et ainsi, ils pourront connaître la vérité et être libres. Versets 31 et 32. Jésus affirme être la vérité et pouvoir libérer. Et qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Comment Jésus peut affirmer libérer en étant la vérité? Et à travers ce texte, encore une fois, je vous propose trois caractéristiques de Jésus. Jésus est un avec son Père. C'est pour ça qu'il peut libérer. Jésus n'est pas menteur. Et le troisième point, Jésus est Dieu. J'aime bien répéter que Jésus est Dieu. si vous êtes habitué à ce que je raconte. J'aime bien l'affirmer et le répéter. Ça me semble très important aujourd'hui. Jésus est un avec son Père. On voit qu'il est en parfaite relation avec son Père. Et ce qu'il raconte à son sujet, c'est qu'il a vu de lui, ce que Jésus raconte au sujet de son Père, c'est ce qu'il a vu auprès de lui quand il était avec lui avant de venir sur terre. Et c'est ce qu'il transmet, versets 26 et 28. Je répète, l'objectif de Jésus était de rendre la gloire à Dieu, de l'honorer et de suivre sa parole. Et ça, on voit ça dans le texte, au verset 55, où Jésus dit « Moi, je suis ce que mon Père veut que je fasse. » Et si Jésus a une quelconque gloire, c'est celle que lui donnera son Père, pas autre chose. Si vous survolez encore l'Évangile, vous lirez que Jésus est un avec son Père et que l'auteur l'affirme qu'il est un avec son Père. Hébreu nous rappelle que Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. L'apôtre Paul répète aussi aux Colossiens qu'il est l'image du Dieu invisible. On voit qu'il y a quelque chose, l'image, il fait exactement ce que son Père fait. Jésus reproduit exactement les actions de son Père. Il est un. Jésus, quand il dit que je suis un avec le Père, c'est un peu orgueilleux. Ça peut paraître orgueilleux. Pourquoi ? Pourquoi Jésus peut dire ça ? Parce que Jésus n'est pas un menteur. Il reproduit les actions de son Père. Au début du chapitre 8, on voit Jésus qui est avec les pharisiens, avec la femme adultère, et les pharisiens emmènent la femme adultère auprès de Jésus pour savoir ce qu'il faut faire avec elle, s'il faut lancer des cailloux ou pas. Et Jésus leur dira que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Et là, les pharisiens s'en vont, un par un. Dans notre texte, Jésus va leur dire « Qui me convaincra de péché ? Qui me convaincra d'avoir désobéi à Dieu ?» C'est ça que ça veut dire, hein, convaincre de péché, d'avoir désobéi à la loi de Dieu. Et là, personne, pas de réponse valable. La seule réponse qu'il donne, c'est « Nous avons bien raison de dire que tu es un Samaritain et possédé. » C'est super comme argument. Jésus affirme ne pas pécher. Qui me convaincra de pécher ? Jésus affirme ne pas avoir désobéi à Dieu. Et le gars, il leur dit juste « Mais mon gars, tu es un Samaritain possédé. » Ils ne trouvent pas d'autres arguments. Hein. Et ils ne sont pas revenus sur l'événement précédent quand Jésus est auprès de la femme adultère où Jésus dit que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Ils ne reviennent pas là-dessus. Alors que ça aurait été facile. Parce qu'en plus, le texte ne nous dit pas. Enfin, Jésus n'a pas jeté la pierre à la femme, en plus. Mais pas parce qu'il avait péché, mais c'est pour une autre raison. Et ils savent vraiment que Jésus n'a pas péché. Et tout, si vous survolez à nouveau l'évangile, ou les quatre évangiles, vous voyez qu'ils cherchent à chaque fois un moyen pour tenter Jésus, pour lui tendre des pièges, pour qu'il le pêche, on va dire comme ça, pour qu'il désobéisse à Dieu, et pouvoir l'accuser et le tuer par la même occasion. Seule réponse qu'il donne, c'est « Tu es un Samaritain possédé, tu es un démon. » Et Jésus va un peu les piquer en disant « Si moi, je ne dis pas tout ce que je dis, je serai menteur. » Si je n'affirmais pas être un avec mon Père, je serais un menteur. Et là, je pense que la pression doit monter chez nos amis pharisiens, avec Jésus qui affirme être un avec son Père, qui affirme ne pas être menteur, et qui affirme être Dieu. Il affirme exister à l'époque d'Abraham, alors qu'il n'a pas encore 50 ans, comme diraient les pharisiens. Et même s'il en avait 60, 70, il ne remonterait pas encore jusqu'au temps d'Abraham. Jésus affirme être tout simplement « Je suis », il dira, « Je suis », qui est réservé bien entendu à Dieu. Et c'est Dieu qui affirme dire ça au peuple d'Israël en Exode. Et les pharisiens ont clairement compris qu'il faisait allusion à Dieu, au Père, quand il disait « Je suis », ils connaissent bien les textes, et qu'il se prend pour Dieu, c'est passible de mort. Mais problème, s'ils n'ont pas de motif pour l'arrêter, ce n'est pas un vrai motif parce que ce n'est pas assez tangible. Mais quand même, les Juifs sont un peu excédés parce que Jésus veut les libérer, parce que Jésus leur pointe du doigt le fait que Satan les tient. Et le problème, Jésus affirme en étant Dieu, Jésus affirme être Dieu en pardonnant les péchés. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Si Jésus n'est pas un menteur, qu'il est un avec son Père et qu'il est Dieu, alors il a le pouvoir de rendre libres les personnes. Jésus nous rend libres de pouvoir voir normalement, de pouvoir vivre dans la condition normale, c'est-à-dire en tant qu'enfant de Dieu. Jésus nous montre ce qui est mauvais, des fois aussi en nous. Jésus veut nous libérer de cet aveuglement. Car Satan sait nous faire croire que nous sommes un peuple libre, que nous sommes libres, que notre rang social, notre filiation peut-être chrétienne suffit. Mais le Christ ne nous donne pas seulement la possibilité de voir que nous sommes esclaves du péché. Sinon, nous serons bien malheureux. Blaise Pascal, après avoir parlé de Divergente et je ne sais plus quel autre film, Blaise Pascal, on va être un peu plus sérieux, il écrit que la connaissance de Dieu sans celle de sa misère fait l'orgueil. La connaissance de Dieu sans celle de sa misère fait l'orgueil. Et la connaissance de sa misère sans celle de Dieu fait le désespoir. Si Jésus nous libérait juste de notre misère, ça ne changerait rien. Il nous manquerait quand même cette dépendance à Dieu. Nous sommes, de manière naturelle, nous sommes faits pour être en relation avec Dieu. Ça, c'est l'homme normal, dépendant de Dieu. Ce qui est anormal, ce n'est pas d'être dépendant de Dieu. C'est ce que la Bible affirme. Jésus nous répète, reconnais que tu as une chaîne aux pieds. Reconnais que tu as désobéi, que tu m'as fait du mal. Et vis comme un homme normal, un homme dépendant de Dieu. Notre partie de texte est encadrée par le verset 31 et 51, où il dit la même chose. Si vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Verset 51. Vraiment, je vous l'assure, celui qui observe mon enseignement ne verra jamais la mort. Jésus propose cette solution, une libération totale, en vivant pleinement selon la volonté de Dieu, selon notre condition normale. Demeurer dans les paroles de Dieu, dans les paroles du Père, accomplir la volonté du Père, c'est ce qui caractérise pleinement Jésus. Et nous ? Et nous alors ? Je vous propose deux pistes de réflexion. On va voir plein d'autres, hein. Je voulais juste me centraliser sur deux pistes. Notre identité et notre relation avec Dieu. Vous l'avez bien compris, c'est pas parce que nous sommes là ce matin que nous sommes vraiment des enfants de Dieu. C'est pas parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne que nous sommes vraiment des fils de Dieu. D'après ce que nous dit Jésus, je ne me permettrai pas d'être aussi dur si la parole de Dieu ne le disait pas. Jésus nous a dit qu'on a un avantage d'être des enfants de chrétiens, d'être dans une église pour pouvoir écouter la parole de Dieu, pour pouvoir être enseigné, pour pouvoir écouter ce qui est Dieu, voir ce qu'il a pour nous, voir tout ce qu'il a fait pour nous. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu, il y a peu qui le parlent directement à lui. La question c'est, où j'en suis avec Dieu ? Suis-je vraiment un fils ou suis-je un descendant ? Pour reprendre les termes du texte. Que je sois chrétien ou non, hein, est-ce que je suis prêt à plus ouvrir les yeux sur ma condition ? Est-ce que je laisse Dieu me dire où j'en suis ? Et pour ça, est-ce que je prends du temps pour lui le laisser me parler ? A priori, les vacances, c'est des vacances de travail, pas de relation avec Dieu. Et j'espère que pendant ce mois qui a écoulé ou le mois qui va arriver, si vous avez pris vos vacances, si vous êtes en train ou si vous allez prendre vos vacances, vous allez pouvoir aussi prendre plus de temps avec Dieu. Dans notre relation avec Dieu, on voit que Jésus, par identification, il ne s'arrête pas à dire « Jésus t'aime », ce qui n'est pas faux. Hein. Mais il va plus loin. Il veut que les gens soient transformés, que les gens se changent. Il est prêt à les bousculer. Il est prêt à même recevoir des pierres en disant la vérité. Et c'est souvent la question que je me pose. Jusqu'où je suis prêt à aller ? Pour témoigner, pour vivre ma foi, ma vie de chrétien. Je parle dans des conditions normales, hein, où on va au travail, on va dans une association, on va faire du sport, conditions normales. Je ne parle pas dans un ministère où vous êtes évangéliste. Voilà, non, conditions normales. Jusqu'où je suis prêt à aller pour ouvrir ma foi. Et c'est ce que Jésus demandera aux disciples, à certaines personnes qui veulent le suivre. Laisse tout ce que tu as et suis-moi. Es-tu prêt à me suivre ? Il ne faut pas qu'on perde courage. Jésus veut vraiment nous aider à avancer, nous aider à être toujours en pleine communion, en plus de relations. Alors, si le mot communion peut être chargé des fois de sens, en tout cas, de plus en étroite relation avec le Père. Ça, c'est ce que Jésus veut, parce que Dieu le veut. Que nous soyons réconciliés avec lui, que nous soyons un avec lui. Je m'encourage à lui demander de vous éclairer sur votre condition, pas sur la condition du voisin, sur la vôtre, pour que vous puissiez grandir en Dieu, et ensemble, en tant qu'Église, nous pourrons grandir aussi. Je vais prier. Notre bon Père Céleste, nous voyons que tu veux nous faire changer et tu veux que nous fassions les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Seigneur, nous voulons être lucides sur qui nous sommes et nous voulons te laisser un peu plus de place ce matin. Nous voulons que tu nous parles. Et je suis persuadé que nous tous, nous voulons prendre toujours plus de temps avec toi ou plus caler des temps de qualité avec toi. Prendre des rendez-vous avec toi, comme avec un ami à qui on voudrait parler, passer du temps avec. Seigneur, pardonne-nous de notre faiblesse. Et encore, viens en notre secours par ton Esprit Saint. Amen.